Ce mini shiur est dédié pour la refoua de Shimon ben Shlomo et
Esther Kadosh
Bat Chana. Donc dans environ 10 jours, nous rentrons dans la 7e année du cycle de Jachère, la Shemitah. Tous les 7 ans, la Torah ordonne que la terre d'Israël, ça ne concerne que la terre d'Israël, soit en Shabbat Lachem, c'est marqué, un Shabbat pour Dieu. La terre doit arrêter d'être travaillée par les juifs. Les non-juifs peuvent travailler la terre d'Israël si elle appartient aux non-juifs. Une terre juive ne peut pas être travaillée par des ouvriers étrangers, mais si une terre appartient à des non-juifs, alors elle peut être travaillée par les non-juifs, il n'y a pas de problème. Et pas par des juifs. Au niveau mystique, durant cette année-là, il y a une très grande montée de la présence de la Shrina ici en terre d'Israël. Preuve en est que les juifs qui ont la crainte de Dieu essayent toutes les nuits de dire Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est 10 minutes environ de texte, divisé en deux parties, Tikkun Rachel, Tikkun Léa. C'est-à-dire qu'on dit quelques textes qui, quelque part, réparent la Shrina. C'est écrit que dès minuit, le minuit juif, il y a une grande dépression à la présence divine. Et à ce moment-là, ceux qui se lèvent pour dire Tikkun Chatzot la font monter. Après, la Shrina leur est très reconnaissante et ils ont une bonne relation, c'est bien, ils sont pistonnés avec Hachem, c'est toujours bien. Et il y a deux parties dans la Shrina, une qu'on appelle Léa, une qu'on appelle Rachel. Parce que Rachel et Léa, nos matriarches, c'est elles qui étaient les véhicules de ces parties de la Shrina. Les jours qui sont des jours où il n'y a pas trop de tristesse, tels que Rosh Chodesh, Chol HaMoed, Sukkot, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a des périodes, par exemple, les 12 premiers jours de Sivan, Aseret Yemei Teshuva, toutes ces périodes-là, on dit que Tikkun Léa. Rachel est en bon état. Il n'y a que Léa. Durant l'année de la Shemitah, qu'en terre d'Israël, on dit que Tikkun Léa. Ça veut dire que Shrina, les parties, les Rachel, qui est d'habitude en plus mauvaise position, elle est complètement réparée. Ça veut dire qu'au niveau mystique, les choses vont mieux. Top, ça c'est pour la 7e année. Dans 10 jours, Yad Hashem, on y rentre. Et comme vous savez, on attend toujours Mashiach. On ne peut pas ne pas voir ce qui se passe autour de nous et voir que le monde bouillonne. Les choses avancent très vite. Tout le monde s'attend à des événements décisif et grandiose. Que dit la Torah? Dans la Gemara, c'est marqué pourquoi est-ce qu'on a fixé en 7e position la bracha dans la Amida, Baruch HaTashem Gal Israël. Goel Israël, pardon. Goel Israël. On a 19 bénédictions dans la prière de la Amida, la grande prière qu'on fait 3 fois par jour. Et elle a un ordre. Magan Avraham, Chaya Metim, Akela Kadosh, etc. En 7e position, Baruch HaTashem Goel Israël. Question que pose la Gemara, dans le traité Megillah, page 17b. La Gemara répond, parce qu'en 7e année aura lieu la Géoula, la venue du Messie, ce que nous attendons depuis 3500 ans environ, enfin un peu moins, 2500 ans. La Gemara objecte et dit non, c'est pas possible, c'est marqué que la 7e année, il y a un autre enseignement qui dit, 7e année, il y aura la guerre, et qu'en sortant de cette 7e année, donc début 8e, donc dans un an et 10 jours, là, Mashiach vient. Gemara dit oui, c'est vrai. Mais la guerre, c'est déjà le début de la Géoula. La guerre, c'est le début de la Géoula. Comme un accouchement. Quand la femme, ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement, ça commence par des contractions, toujours plus fortes, toujours plus. Puis à un moment, on est déjà en phase d'accouchement. Puis à un moment, on peut dire qu'on est déjà dans la... Elle accouche. C'est pas qu'elle est juste en train de se rapprocher. On voit la tête, d'accord? On voit la tête, ça y est. C'est une question de quelques secondes ou minutes. C'est le pire moment. C'est la guerre. À la fin, le bébé, il sort. C'est le dernier, Ça, c'est l'avènement du Messie. Il arrive, tac, tout s'arrange, tout va très bien. Bien que, si on parle de l'année prochaine, tout cela, bien sûr, on espère. Parce que... Ce n'est pas la première fois, oui, on est à 7e année depuis 2500 ans. Tous les 7 ans, ça revient. Mais là, étant donné que les rabbanim disent que le Mashiach est très proche, comme ils ne le disaient pas auparavant, des grands rabbanim, Rav Steinman, Rav Chaim Kanievski, et on voit les signes qui se précisent, on va en parler tout de suite un peu, Donc on espère, Baruch Hashem. Et si rien n'arrive, ben, ça veut pas dire que c'est repoussé dans 7 ans. Parce que chaque moment, ma chère, peut arriver. Il y a des moments propices. Un des moments propices, c'est en sortant de 7e année. Surtout si auparavant, il y a une guerre la 7e année. En sortant de 7e année, donc l'année prochaine, c'est marqué que quand Machiach vient, il doit pratiquer et gagner les guerres de Gog ou Magog. Il y aura une union des peuples, 70 peuples contre nous. Il est écrit que cette guerre aura lieu pendant Soukhot. Encore une fois, ça peut se passer autrement. Les écrits, le Rambam dit qu'on ne sait pas exactement comment ça se passera parce qu'il y a plusieurs écrits qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc ce sont plusieurs options, on ne sait pas quelle est la bonne. Donc c'est tout, je vous jette un peu comme ça les notions qui sont décrites, mais comment ça sera vraiment? Alors si c'est Motsé Shvit en sortant de 7e année, ça sera Sukkot en sortant Machiach revient, et là il y a les guerres de fin, les guerres fin apocalypse, l'année prochaine. Mais néanmoins, 7e année, on doit voir la guerre. Maintenant la guerre contre qui? C'est marqué Rachid directement, la guerre contre Israël. Tout le monde a voulu dire maintenant, ça commence, voilà, Obama, 45 pays, la coalition, l'État islamique, c'est vrai que c'est un truc assez, assez extraordinaire, un pays qui n'existe pas, tout coup, comme ça, il est là, et en un an et demi, deux ans, et le monde entier, Kerry, le ministre des Affaires étrangères, je crois, américain, il dit que c'est la menace numéro un dans le monde.
L'Iran l'a oublié.
Pardon ?
L'Iran l'a oublié.
Alors, je vais y arriver. Oh, l'Iran a oublié, mais ils sont copains, maintenant l'Amérique et l'Iran sont copains, ils vont les aider, voilà, la Russie, enfin, comme si...
C'est quoi l'État islamique?
Alors, il y a une bande de fous. Ce sont des sunnites. C'est une sorte de déformation de Al-Qaïda, une sorte de branche qui... Al-Qaïda, c'est sunnite aussi à la base. Donc, révolutionnaires, qui veulent... Jihad, ça veut dire la guerre sainte pour tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et en première étape, ils veulent de nouveau créer ce qui s'appelait avant la Première Guerre mondiale, il y avait ici l'Empire ottoman. Et toute la région du Liban, Syrie, Palestine, Jordanie, tout cela s'appelait la Grande Syrie. Et ils veulent de nouveau conquérir la Grande Syrie, que ce soit de nouveau donc, l'État islamique, la Grande Syrie. Donc c'est eux qui sont opposés à Assad en Syrie, et puis ils ont commencé à monter vers l'Irak, ils ont conquis le Mossoul, une grande ville, ils ont beaucoup de pétrole, ils ont des milliers de volontaires djihadistes venant de France, de Suède, de Norvège, d'Angleterre, de Pologne, de Somalie, de tous les pays du monde, toujours qui va un peu action comme ça, chacun qui était un peu on l'a un peu tourner la tête, djihad, d'accord, c'est sympa d'être djihad pour Dieu, pour Allah, tout ça, on peut tout faire, tu fais tout ce que tu veux. Ils sont hyper cruels, ils coupent les têtes, ils jouent au football avec, ils filment, d'accord, il y a une sorte d'entente commune dans toutes les guerres, les reporters, c'est des gens un peu neutres comme ça, il y a une sorte de protection comme ça, bah, pas du tout, t'es pas musulman, hop, on coupe la tête, on filme, et on envoie un peu à tout le monde, donc ils coupent les têtes un peu à tout le monde dernièrement, tous les reporters. Et donc Obama fait une coalition de 45 pays pour le moment, pour attaquer, en tout cas pour être pour, aider, etc., à l'anéantissement de ce pays. Pourquoi ?
Non, il n'y a aucun danger.
Ouais, je ne sais pas qu'elle la menace tellement. Bon, ils menacent la Jordanie, ils menacent l'Irak, et s'ils continuent à voir l'Irak, ils arrivent déjà au puits de pétrole. Nous aussi, bon, mais je ne sais pas, ces nouveaux stratégiques qui sont tellement, tellement dangereux pour Israël. Ils arrivent quand même une armée solide, des avions, machin, tout ça, c'est pas... Ils ont le pétrole en deux mots, je crois que c'est la grande raison. Parce que c'est vrai qu'on crie comment ils tuent des civils, tout ça, les 100 000 civils tués par dans la guerre civile là-bas en Syrie, rien à faire, en Libye aussi, rien à faire. Et ils ont pas de pétrole, ouais, ceux qui ont du pétrole, quelque part, méritent d'être... mettre une coalition de 45 pays contre eux. Ils ont le pétrole, après tout. Ça, c'est la vérité, que je pense, d'accord. Au niveau juif, c'est clair que lorsqu'il y a une coalition de pays, ça vient proche de nous, ça doit, avec tout ce qu'on est en train de vivre, je vais peut-être expliquer pourquoi les grands Torah disent qu'ils pensent que nous sommes très proches de l'époque messianique, parce que les signes sont clairs. La Torah annonce un retour en terre d'Israël, on l'a eu. La Torah annonce un retour du peuple d'Israël à la Tchouva, à la Torah d'Israël, on le voit, c'est miraculeux, comment des milliers, dizaines de milliers de gens font Tchouva. La Torah qui était partie en exil il y a 1800 ans, elle a quitté la terre d'Israël, partie en exil, centre de Torah en Babylonie, après en Afrique du Nord, en Espagne, en France, revient en terre d'Israël. Aujourd'hui, la Torah se trouve en terre d'Israël. 1 million de Juifs environ, il y a 4-5 mois, ont créé Shema Israël à Jérusalem. Jérusalem qui était une ville vide, vide. Je suis arrivé ce matin, j'ai vu, en jouant en voiture, je vois Jérusalem, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y avait ici il y a un siècle? Il n'y avait rien. Minuscule, bidule, d'accord. C'est une ville, Baruch HaShem, pleine de Juifs. C'est extraordinaire. On est en train de vivre la fin des temps, c'est clair. C'est écrit que la terre d'Israël qui était aride donnera ses fruits de façon abondante. C'est le cas. Et il y aura, comme dit le Zohar, une position à Ishmaël au monde arabe. Et aujourd'hui, on n'est pas en bisbise avec les Français ou les Allemands ou les chrétiens. C'est avec Ishmaël. Le signe le plus clair aussi que nous avons sur l'imminence de cela, c'est hélas l'opposition de l'État d'Israël, en tout cas de certains partis de l'État d'Israël qui ont, aujourd'hui sont assez majoritaires et puissants, contre la Torah d'Israël. De tout temps, il y a un status quo entre le monde religieux et le monde laïque en Israël. On se respecte, on ne se met pas trop les bâtons dans les roues et on vit ensemble. Monsieur Lapide, de mémoire non bénie, a décidé autrement, comme son père qui était voilà, comme ça, c'était un grand propagandiste contre la Torah ici en Israël. Donc son fils a repris le flambeau et s'est mis à la tête d'un parti. Il a mis sur son drapeau, on va rayer la Torah d'Israël. À tout prix, à tout prix. Évidemment, le monde religieux n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prie et on verra bien comment ça se passera. On a confiance. On a franchi Pharaon, les Romains, les Grecs. On franchira aussi Lapide, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quelqu'un qui a un peu de jugeote, il comprend très bien. Maintenant, donc, et ça, c'est écrit dans la fin du traité Ketubot. Génération vient le Mashiach, catégorie, il y aura des accusations contre les étudiants de Torah. Bon, on est en train de le vivre, c'est une chose très très nouvelle et très très soudaine et très virulente. À ce point-là, il y avait une haine du monde laïque contre le monde religieux parce que ça se dérangeait. Mais bon, il y avait un respect. Là, il n'y a plus rien, je veux dire, vous dégagez, d'accord? Ils ne sont plus d'accord. Donc, et c'est bon, c'est assez, assez extrême et assez. Ça exprime bien ce que dit, je pense, les textes, comme quoi on est proche de l'époque messianique. Ce qui est normal, parce que lorsque... Bon, je ne peux pas trop expliquer ici pourquoi et comment. Je vais expliquer dans un cours qui s'appelle Erev Rav. Il était nécessaire que cet État soit créé de façon laïque, anti-religieuse. Sinon, jamais le mal n'aura accepté cela. Et quelque part en douce, le monde religieux est rentré en douce sous ce qu'on appelle la Klipa, l'écorce. Et le fruit qui est le monde religieux, qui est le vrai peuple d'Israël, qui depuis 3500 ans survit grâce à sa Torah, et grandit, et la clipa, l'écorce, elle dit, c'est moi le Zohar dit que toute l'écorce pousse en premier, c'est moi qui étais le premier, c'est à moi, c'est mon endroit. Elle dit, mon cher ami, tant que tu es là pour nous protéger, nous aider, il n'y a pas de problème, tu veux te dissocier de nous. Ok, dissocie-toi, mais pourquoi Am Israël existe? Pour la vente des falafels, pour faire une gay pride, ou pour la Torah? Il faut choisir dans quel camp tu es. Si toi tu es, si tu mets ton drapeau contre la Torah, et moi je veux les falafels, les mini-jupes et les gay pride, et pas de Shabbat, et maintenant ils ont mis dernièrement un rabbin, le premier rabbin conservatif gay, d'accord, officiel, d'accord, oui, en RS. Il veut que les conversions soient faites avec le rabbin qu'on veut de n'importe quelle ville. Bon, il veut en 2 mois qu'il n'y ait plus de Torah. C'est une bataille, et ils se battent très fort dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Si le peuple juif a survécu 3500 ans, dont 2500 ans d'exil contre des ennemis qui ont voulu qu'ils disparaissent, il est là. Et tous les ennemis ont disparu. Tu crois que toi, tu vas faire nous faire guili-guili? Bon, on va peut-être souffrir, mais on compte sur Akash Bohu. Donc c'est un signe très, très positif en soi. On espère qu'il fera tchouva, parce qu'on n'a aucune raison que... Maintenant. Alors, tout le monde pense à Obama... Le Daesh, donc l'État islamique, et qu'est-ce qu'il va faire pour peut-être ces machères qui vont venir? À mon avis, ça ne nous touche pas encore. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une guerre des Goïm contre Israël. Par contre, il y a un ennemi énorme, extrêmement dangereux, extrêmement bien équipé, extrêmement bien armé. Ici, un ancien soldat qui s'est battu beaucoup m'a dit que ce sont des très bons viseurs, pas comme les soldats de Gaza, c'est des très bons viseurs, des très bons soldats. C'est le Hezbollah. Hezbollah en français. En arabe, en hébreu, Hezbollah, les troupes de Dieu, Hezbollah, troupe de Dieu, dirigée par Nasrallah, le vainqueur de Dieu, d'accord, au nom de Dieu. Des chiites qui se sont battus, qui se battent donc contre l'État islamique qui est sunnite. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vous explique un peu mieux. Il y a une page du Talmud qui raconte un peu comment ça se passait. C'est dans Sanhedrin, page 98, le bas de la page A et le haut de la page B. « Adi Rabbi Yossi ben Kisma, enterrez profondément mon cercueil, car tu n'as pas de cheval perse, car tu n'as pas de palmier en Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché, tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin. » Bon, énigmatique, sans Rashi on ne comprend rien, Rashi explique que ça aura lieu dans les guerres de Apocalypse, la fin des temps, les guerres de Gog ou Magog. Que tu n'as pas de palmier en terre de Babylonie, la Babylonie c'est où? C'est l'Irak, dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui mange du foin, qui est attaché. Explique Rashi, durant ces guerres de la fin des temps, la Perse c'est où? C'est l'Iran actuel, va conquérir l'Irak. Et tu n'auras pas de palmier en terre d'Irak dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché, car toutes les armées iraniennes vont rentrer en Irak. Et de là, ils viennent en Israël et déterrent les cercueils pour en faire des mangeoires. Les cercueils à l'époque n'étaient pas faits de bois, ils étaient faits de pierre, c'est comme une grande baignoire comme ça. C'est très pratique pour en faire un mangeoire pour les chevaux, donc on va les déterrer pour y mettre du foin. Alors Rabbi Yossi Kisma, qui ne voulait pas se faire renifler par les chevaux, il a demandé qu'on enfonce profondément son cercueil comme ça. On ne va pas le déterrer pour en faire un mangeoire. Mais les autres, oui. C'est intéressant parce que l'État islamique s'appelle le califat à cheval, comme ça ils se font appeler. D'accord, le califat à cheval. Mais c'est encore hein, comme à l'ancien temps, etc. Il n'y a pas de cheval. Alors maintenant, il y aura la guerre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les pays vont venir attaquer le Daesh, d'accord, l'État islamique. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas prophète. Mais je vous dis simplement des pensées, des projections que j'ai. Peut-être oui, peut-être non. Plus de chances que non que de oui. Cette prophétie de la Gemara, je la connais déjà depuis combien de temps? Depuis 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait la guerre entre l'Irak et l'Iran. Saddam Hussein et Khomeini. Une guerre déchirante. Des centaines, des millions de morts. Des millions de morts. Une armée israélienne, on disait, qu'est-ce qu'on est heureux qu'ils se battent entre eux? Ce sont deux hyperpuissances et qui s'inscatent, au Hashem qui continue à s'esquinter. C'est-à-dire qu'entre l'Iran et nous, que l'Iran doit venir nous attaquer, il y avait un super malabar, Saddam Hussein. En 2002, vient le père Bush, liquide Saddam Hussein. Bon, il y a un trou vide maintenant. Bon, quel trou vide? Alors, il est arrivé à l'Amérique, les Américains étaient là-bas. Jusqu'à quand? Jusqu'à 2 ans. Il y a 2 ans, les soldats américains sont sortis. Bon, alors, il y a un trou vide. Qui vient prendre le trou vide? L'État islamique. Il prend, tac, il est en train de conquérir l'Irak. On va l'éliminer. Et comme on l'élimine, l'ennemi juré jusqu'à aujourd'hui de l'Amérique, c'était l'Iran. Aujourd'hui, l'Amérique s'est mis copain avec l'Iran. On va vous aider. Faites rentrer vos soldats en Irak pour nous aider à nous battre contre l'État islamique. Obama, c'est un poltron. Il n'ose pas amener ses soldats là-bas en Irak. Ça fait 2 ans qu'il est sorti. Il a peur de l'opinion publique, etc. Donc, on va seulement de l'air. De l'air, on va attaquer. On va bombarder. Mais sur le terrain, il faut des soldats. Alors, il y a les Kurdes, etc. Et les Iraniens aussi. Allez, rentrez-vous aussi. Donc, on commence à voir la prophétie de l'Agmara, que les Iraniens vont rentrer en Irak. Et maintenant, les Iraniens, c'est un pays fort, c'est le pays le plus fort de la région. Maintenant, l'Iran, c'est chiite. Hezbollah, qui sont au Liban, c'est une plateforme iranienne chiite aussi. Entre les deux, il y a le No Man's Land, il y a l'Irak, qui était moitié chiite, moitié sunnite, avec les Américains. Tout cela maintenant en train d'être conquis par l'État islamique. On va baser l'État islamique. Qui risque de prendre maintenant la bonne initiative de conquérir tout l'Irak? Je ne sais pas. Mais ils sont, peut-être, si ça se réalise, et je pense, que, et comme je le pense, mais je ne sais pas si j'ai raison, c'est plutôt peut-être en plein rêve, d'accord? L'Iran va conquérir l'Irak. Et là, tu as ce qu'on appelle le croissant chiite. Tu as le Liban, l'Irak et l'Iran qui sont chiites. Chiite, ça veut dire djihad aussi. Djihad. Dans le Hezbollah, extrêmement dangereux. Hezbollah, il n'a pas 10 000 ou 20 000 missiles comme avait les Gazaouis, il en a 100 à 150 000. et pas des petits missiles inoffensifs Qassam, fabrication maison. Il a des missiles super balèzes. Il a des scuds. C'est des missiles énormes. C'est des géants missiles, d'accord. Il a un missile, en moyenne, je le calcule, un missile pour chaque maison en Israël. Et déjà, on nous a dit que Dôme de fer ne fonctionne pas pour tous les missiles de Hezbollah. Ils sont trop perfectionnés pour Dôme de fer. Ils ont une armée très, très puissante. Ils se sont battus maintenant depuis 2-3 ans contre l'État islamique. Donc, ils savent se battre. C'est des bons soldats. On me dit qu'on vient de nous aux nouvelles que...
Ah, le Hezbollah, il est prêt à attaquer.
Prêt à attaquer Israël. Ben, c'est marqué 7e année, guerre. Qui aura-t-il? J'ignore, je ne sais pas. Mais Dieu veut qu'on fasse Tchouva. Et Dieu veut que le mal disparaisse du peuple d'Israël. Oui.
Si, mettons, on n'a pas fait assez de Tchouva, qu'est-ce qui va se passer?
On fera Tchouva. C'est marqué.
On les a vus, les guerres du Liban.
Bon, viens, on va voir. C'était quoi, les guerres du Liban?
C'était des catastrophes à chaque fois. Que ce soit les plus anciennes.
Ouais.
Ou les moins anciennes. C'était une horreur à chaque fois. Et ça a l'air, quoi. Ouais. Et là, c'est censé être la bataille.
Ouais.
Si on n'a pas fait assez de Tchouva, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, dit la Gemara, juste après. Elle dit, a dit, Rabba. Yete velo achmine. Kivel Mashiach et Kushapala. Tellement ça va être dur. De même à dire Oula. Qui vienne, Mashiach ne soit pas là. Je ne veux pas être présent, tellement ça va être dur. Moi, je dis pourquoi c'est Oula qui a dit ça? Oulala. Et j'obtiens un jeu de mots aussi sympathique. Yete velo achmine. Qui vienne et que je ne vois pas. Comment il s'appelle le grand chef iranien? C'est pas Ahmadinejad avant, c'est pas Rouhani, c'est le grand chef religieux. Il s'appelle pas Khomeini, c'était l'ancien, Khamenei. Yete vela. Alors si tu le veux, tu peux dire en wa en araméen. Yete yola Khamenei. Dans la Gemara, qui viennent que je ne vois pas, on peut le dire Ayatollah Khamenei. Peut-être. C'est des jeux de mots, ça ne veut pas dire, c'est pas forcé. Mais ça peut être vrai. Rabbi Yochanan dit, qui viennent, et que je le mérite, il n'est pas d'accord avec les deux premiers, Rabbi Yochanan dit, qui viennent, le Mashiach, que je le mérite d'être assis à l'ombre du crottin de son âne. Que le Mashiach vienne sur un âne. Même dans les conditions les plus affreuses, d'accord, nauséabondes et terribles, que je sois à l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach, il faut déjà pas d'être présent. La Gemara continue, dit, l'élève de Rabba s'appelait Abaye. Elle m'a dit à son maître Rabba. Pourquoi tu dis Yeté Velo Achmene? Pourquoi tu dis qu'ils viennent, que je ne sois pas présent? Il est écrit que les élèves de Rabbi Elazar lui ont posé la question. Maïs et Adam, Vénassé, Mechavosh et Mashiach. Que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? La guerre, les missiles, tout ça, c'est dur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé de ça? Et Rabbi Elazar a répondu. Yasok batora ou gun chassadim, qui soit affairé à la Torah et à l'entraide, au chassad. Une affaire. Pas que j'étudie et je fais du chassad. Affairé, jour et nuit, comme ça. Ou la Gemara, ou les affaires de chassad, et les deux à la fois. Celui qui fait ça, il est sauvé. Or, toi, Rabba, pour la question à Baillé, tu fais ça et ça. Tu as du chassad et tu as la Torah. Tu as un grand Torah, tu fais beaucoup de chassad. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu dis qu'ils viennent et que je ne suis pas là pour le recevoir? Toi, tu peux le recevoir, pépère. Sans aucun problème. Il lui a répondu, « Shemaï gros machet. » Ça, c'est s'il n'y a pas des péchés. S'il y a des péchés, alors il faut laver les péchés. Il faut faire tchouva des péchés. Ou si on ne fait pas tchouva, il faut les expier. Comment on expie? Par la souffrance. Un peu plus la Gemara, elle dit, une marloquette, on rabbi les Rabbi Yoshua. Un a dit, si Israël font tchouva, ils seront sauvés. Sinon, ils ne seront pas sauvés. Il a répondu, Rabbi Yoshua, je me souviens bien, Rabbi Lazar lui a dit, s'ils ne font pas tchouva, ils ne seront pas sauvés. Après, ils ne seront jamais sauvés. Quand il n'y a pas de Mashiach, on reste en exil 120 000 ans. Il faut dire autrement. S'ils font tchouva, ils seront sauvés. S'ils ne font pas tchouva, Hachem mettra contre eux un roi dur comme Haman. Qu'est-ce que c'est voulu Haman? Haman, c'est anéantir le peuple juif en un jour. D'où Aman, c'était qui? C'était le vice-président de... Le vice-roi du roi d'Iran, de Perse.
Donc il y a un risque que...
Et Bnei Israël feront tchouva, dit le texte. Ils feront tchouva. Toi-même, tu m'as dit que ton ami là-bas, qui est un des grands chefs de Golani, il a dit 80% là-bas, tout s'y prie. Des non-religieux. Quand tu es face au danger... Et t'appelles papa, il n'y a pas papa, t'appelles maman, papa, maman. Puis toi, si tu restes comme ça, tu vas faire, dans quelques secondes, tu vas faire sur toi-même dans les pantalons. Eh bien, t'appelles Hachem, et comment tu l'appelles? Simplement, hein, les gens intelligents font choix avant qu'il y ait besoin de crier. Mais si Hezbollah, Hasse Shalom, mais si Hezbollah, et on sait qu'ils devaient attaquer les Gazaouis, Gaza et Hezbollah devaient attaquer le Rosh Hashanah en même temps, ce Rosh Hashanah, avec tous les tunnels. Alors, on a découvert les tunnels de Gaza. On n'a pas découvert les tunnels du Hezbollah. Il y en a. On sait qu'il y en a. Ils sont très bien armés. Ils sont très dangereux. Et la Gemara dit que l'époque messianique, c'est aussi dans ces pages-là de Sanhedrin, aussi à la fin du traité, je me souviens aussi à la fin du traité Sota, c'est marqué que le Galil va être détruit. Toute la région nord d'Israël. Toute la région nord, c'est marqué qu'il va être détruit. J'espère que toutes ces choses ne vont pas se réaliser. Ce qui nous concerne, nous, messieurs... C'est écrit, je ne sais pas si c'est sûr, rien n'est sûr. Rien n'est sûr, on ne sait pas. Je vais dire ce que m'a dit Rabbi Sadam Bachaoul. Rabbi Sadam Bachaoul, il m'a dit, à mon avis, toutes les il y aura Gog ou Magog. Il y aura, c'est nécessaire qu'ils viennent ici, ils doivent arriver à Jérusalem et mourir ici. Mais toutes les souffrances inhérentes à cette guerre sont déjà passées dans la Shoah. Comme ça, je pense, il a dit. Je lui demande pourquoi, il m'a dit, bah, après la Shoah, déjà, on peut encore ajouter, ce ne suffit pas tout ce qu'on a eu comme souffrance. Espérons qu'il a eu raison. Je pense qu'on sera extrêmement protégé. Je ne sais pas si ce sera maintenant, tout de suite, ça va commencer, je ne sais pas. Je racontais déjà, je répétais encore, mais je répétais souvent ici, je répétais, c'est une prophétie dans Yoël, à la fin de Yoël, c'était qui? C'est écrit, « Veniketi damam lo niketi vashem shochan mitzion » et je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé, et Dieu demeure à Sion. Dieu va venger toutes les souffrances comme Israël a subies. Il y a encore des comptes à régler, il va régler tous les comptes. Tous nos ennemis, ils vont se faire comme aujourd'hui, ils se font la guerre entre eux. C'est écrit, après c'est marqué, et Dieu demeure à Sion. Où le rapport en début du verset et fin du verset, les commentateurs, ils disent, il y a 1000 ans déjà, ils disent, lorsque verront les ennemis d'Israël, et d'après certaines versions, c'est les Babyloniens, qu'on verra les Irakiens, que leur sentence est signée la mort, ils vont se renforcer en disant, on ne va pas mourir tout seul, Israël meurt avec nous. Ils crèveront avec nous. Dieu leur dit, n'ayez crainte, ils ne pourront rien faire, car Hachem, Shochen Betzion, Dieu demeure assis. Il y aura un dôme de lumière. Comme on a eu durant cette guerre, la guerre de Gaza maintenant, sur les 3300 et quelques missiles tirés, qu'environ 600 ont été interceptés, 2778 missiles n'ont pas été interceptés, et il n'y a eu qu'un seul mort, un prof thaïlandais qui n'a pas écouté les consignes de sécurité.
Les Libanais, c'est autre chose.
Ok, mais Dieu, c'est autre chose aussi. Alors, ce que je pense, je ne sais pas, mais... Après, je parle juste au moment du retrait des troupes terrestres. Après, il y a encore eu, c'est vrai. Jusqu'au moment, durant la guerre elle-même, où ils font quoi toujours dans la guerre? D'abord, c'est fini. C'est fini. Toi, je ne t'aimais pas, toi non plus, on est tous copains. Tout le monde est copains. Religieux, non-religieux, chassides, sfarades, américains, nord, tout ce que tu veux, tout le monde copain, et tout le monde prie. Et du chassid, et de l'entraide. Ah, jamais vois ça. Il voit ça, il aide. Dès qu'on a sorti les troupes terrestres, ah, tout va bien. Ah, toi, on était où dans notre bagarre là? Et bon, d'accord. Hélas.
Parce qu'avant que les événements, il y a plein de sadikim qui sont partis aussi.
Aussi, c'est clair. Tout ça, c'est clair. Il y a beaucoup de choses qui vont ensemble, c'est clair. Toutes les souffrances, beaucoup de souffrances ici en Israël, beaucoup de souffrances de pauvreté, beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Toutes ces choses-là, ça. Maintenant, il faut comprendre un point un peu délicat. C'est pas Tzahal qui peut nous sauver. C'est la main de Dieu. Il faut que le peuple d'Israël fasse tchouva et comprenne. Tant que c'est Tzahal qui nous sauve, alors c'est Tzahal, pas besoin de Dieu. Comme c'est écrit, Kochi aussi m'a dit, ma force et ma puissance m'a fait cette Ra'il, cette vaillance. Donc il faut une situation où Tzahal est bloqué. C'est paniquant un peu. Comme il y a eu durant la première guerre du Golfe, où il y avait les scuds, 39 scuds qui ont été tirés, aucune parade, et tout le monde priait, il y a eu du miracle. 10 000 appartements détruits, pas un seul mort, pas un seul. Un seul de crise cardiaque, un grand anti-religieux de l'époque aussi. Donc il y aura une situation où on sera paniqué, il faudra crier à Dieu. C'est clair. C'est clair. Il y a un midrash, le plus vieux midrash, Pirkei d'Arbelezer, qui dit pourquoi est-ce que Ishmaël est appelé ainsi? Ishmaël, que signifie Ishmaël? Dieu écoutera. Dieu écoutera. Qui va écouter? Il va écouter Ishmaël. Des clous. C'est marqué que pourquoi est-ce que Ishmaël est appelé Dieu écoutera? Parce que son nom évoque sa finalité. Quelle est la finalité? C'est ce qui passe à la fin. À la fin, c'est l'époque messianique ou pré-messianique. Ils vont venir nous faire souffrir. Comme ça, dit Pirkei d'Arbelezer il y a 2000 ans. Ils vont faire souffrir Am Israël pour qu'Israël crie à Dieu. Et alors, Ishmaël, Dieu écoutera, Veyanem et répondra. Il y a un verset dans Tehilim qui dit Ishmaël Veyanem, Dieu écoutera et répondra, nous répondra à nous. Il y a une situation maintenant où on doit crier à Dieu. Maintenant, tu cries à Dieu quand? On te pince, on te tape avec la main, on te tape avec un marteau, on te brûle, on te commence à t'étrangler, puis tu cries, non, moi je ne crois pas en Dieu. Et, au bout d'un moment, tu vas crier, d'accord. Et, celui qui ne criera pas jusqu'à la fin, il y passera, c'est clair. Donc il faut se mettre à crier à Dieu. Et plus tôt on criera, mieux ça ira. Il y aura 10 jours jusqu'à Rosh Hashanah Kippour. Ça se voit maintenant parce que tout va être fixé sur Rosh Hashanah. Tout va être fixé sur Rosh Hashanah. Qui vivra, qui ne vivra pas. Dans quelles conditions? Dans les abris, pas dans les abris. Il y aura à boire, il n'y aura pas à boire. Il y aura à manger, il n'y aura pas à manger. Qui sait quelle année nous attend? Le monde va basculer. Le monde va basculer. On s'attend à Machiar. C'est un accouchement. C'est heureux, mais c'est marqué. C'est la guerre. Alors, c'est marqué le début de la Géoula. J'ai répondu à la réponse à Gmara, elle dit la guerre, c'est le début de la Géoula. Ok, le début de la Géoula, mais c'est comme un accouchement, ça peut faire très mal.
Et c'est durant 12 minutes que vous.
La fin de Gog Magog, comme ça, il y a une Kabbalah, il y a une tradition au nom du Gaon de Vilna, qui dit que la dernière phase de Gog Magog va durer 12 minutes et demie. Le temps qu'un missile avec ogive atomique soit tiré de l'Iran, atterrisse en Israël. Ça, c'est moi qui. C'est pas lui qui dit, ça, c'est moi qui ai rajouté. 12 minutes, c'est quoi déjà? C'est à peu près ça. Le Gaon de Vilna a dit que lorsque les Russes vont conquérir la Crimée, Machiar se rapproche. Ils l'ont conquis il y a 6 mois. Lorsque des navires russes vont traverser le détroit du Bosphore, Istanbul, les Israël revêtront les habits de fête. Donc on a la crise maintenant ukrainienne, qui est très difficile aussi. Tout cela, c'est un bon mixte, d'accord, un bon cocktail. J'espère que Machiar reviendra. On va faire beaucoup de chouva, prendre sur nous d'avancer, pas par peur, ça fait peur. Machiach en soi, ça fait peur. C'est quoi Machiach? Je vous explique pourquoi ça fait peur. Sans les guerres qu'il y a avant et tout ça, Machiach signifie, c'est la vérité. Il n'y a plus qu'une seule, il y a plus que la vérité. C'est quoi la vérité? C'est Dieu. Il n'y a rien d'autre. L'argent. Les études. T'étais beau, grand, fort, mignon. Que Dieu. À quel point t'étais droit. À quel point t'étais honnête. À quel point t'as fait la Torah. À quel point t'étais proche de Dieu. Il y a tout qui bascule. Il y a tout qui bascule. Il n'y a plus que ça. Et Dieu veut nous faire monter à ce niveau-là. Donc, on doit monter par nous-mêmes, commencer à se détacher de ces choses-là. Et si on ne fait pas cela de gré, on le fera de force. Dieu, comment il va faire tomber? Tac, plus d'argent. Tac, plus de ci, plus de ça, plus rien. Le monde, qui est, au bout d'un moment, t'as que Dieu. Que Dieu. Alors, on va se mettre à appeler. Plus tôt on appellera, tout dépend de nous. Plus tôt on appellera, plus tôt on fera tchouva, chacun de nous a une valeur énorme. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Et le monde juif religieux est encore moins. Dans le monde religieux, beaucoup de gens sont complètement inconscients. Ceux qui sont conscients de ce que je dis, le peu de lumière, c'est marqué Chazal, on dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Si on fait une vraie tchouva, on avance, et Dieu voit qu'il peut compter sur nous, qu'on est des bons juifs, qui l'aimons, et qui voulons faire sa volonté, et on se bat contre le Yetzer. On a le Yetzer Hara, tout le monde Yetzer Hara, et on se bat pour lui. Alors au lieu d'avoir les batailles contre les scouts, on aura les batailles contre le Yetzer Hara, et il n'y aura plus de batailles contre les scouts, ils vont être éliminés. Il faudra que le monde entier, il y aura des miracles, le monde entier va voir que Dieu est avec nous. Et ils vont nous haïr à cause de cela. Et c'est ça qui va provoquer Gog Magog. Tous vont venir, à la fin, ils vont comprendre. Regardez, c'est effectivement comme je dis maintenant, la terre d'Israël, Dieu demeure à Sion. Et on est à la 7e année où il y a une super grande Kedusha qui vient. Si c'est la guerre maintenant qui commence dans le monde entier, il y a des journalistes qui ont parlé de 3e guerre mondiale. Si ça commence maintenant dans le monde entier à aller partir en cacahuète. Et juste ici, on est protégé. Oui, ils vont dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi nous ça va? Et eux, toujours eux, les empêcheurs de tourner en rond, les juifs, on leur rentre dedans. C'est la dernière guerre. Et bien, Hachem, si on mérite, on méritera à la fin. À quel moment? Si on mérite tout de suite, Hachem, tout se passera le mieux pour nous, Hachem. Bah, ou Hadonai, comme on va, mais.